Avant qu'on commence, je demande à Jean-Pascal de bien vouloir prier.
Merci Seigneur de nous avoir rassemblés dans ta maison. Nous savons que tu es présent parce que tu l'as promis, parce que tu nous l'assures. Et si tu es présent, Seigneur, c'est que tu es aussi capable de nous parler, de nous transmettre un message. Et nous voulons nous mettre à ton écoute, nous voulons nous taire pour entendre uniquement ta parole. Nous prions aussi pour que ta parole transperce nos cœurs. Et pour que ta parole puisse être un moteur dans nos vies et dont les effets puissent être largement visibles. On te prie, Seigneur, pour Matthieu, que tu l'inspires, que tu le guides et que tu lui donnes les paroles pour nous parler. Amen.
Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez regardé ce matin, pour ceux qui ont un calendrier avec les saints qui sont marqués. Quel est le saint qui correspond au jour d'aujourd'hui, du 6 août ? Non, c'est pas Saint Matthieu du tout. Je ne me permettrai pas. Aujourd'hui, assez étrangement, vous avez deux options. Soit c'est marqué Transfiguration sur votre calendrier, soit c'est marqué Saint Sauveur. Et c'est assez étrange de voir Saint Sauveur sur le calendrier. C'est comme si c'est marqué Saint Jésus-Christ ou Saint Dieu sur le calendrier, alors que bon, Dieu il est saint, on le sait, on n'a pas forcément besoin de le réécrire sur le calendrier, ça devrait être tous les jours la Saint Dieu. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est marqué la Saint Dieu sur le calendrier. Et de façon complètement involontaire, enfin, j'ai choisi d'aborder ce matin la sainteté de Dieu. Et donc on va pouvoir voir ensemble, j'espère, qu'est-ce que c'est la sainteté de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire que notre Dieu soit saint, qu'est-ce que ça change pour notre relation avec lui. Comment est-ce que, du coup, on peut entrer en relation avec lui? Comment on peut rester en relation avec lui? Voilà ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin. Alors, vous connaissez sûrement le chant « Saint, Saint, Saint et le Seigneur ». C'est un chant très court qu'on pourrait éventuellement chanter à la fin. « Saint, Saint, Saint et le Seigneur ». Alors, qu'est-ce que c'est vraiment un Dieu saint? Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup le mot « saint » dans la vie de tous les jours. J'ai réfléchi un petit peu et moi, franchement, à part le nom des églises de certains villages et les fameux jours du calendrier, j'utilise quasiment jamais le mot saint. Voilà, très souvent maintenant, la seule utilisation qu'on en a, c'est saint associé au prénom de quelqu'un. Il y a une église Saint-Martin à Palaiseau. On connaît la Saint-Sylvestre, la Saint-Valentin. Voilà. Alors, en ce qui concerne la définition du dictionnaire, il y a plein de définitions pour le mot saint. J'en ai retenu deux. Une première qui s'applique aux hommes. Donc un homme, une femme sainte, c'est quelqu'un qui vit selon la loi de Dieu, qui mène une vie exemplaire sur le plan moral, sur le plan religieux. Et quand ça se rapporte à Dieu, saint, ça veut dire, selon le dictionnaire, toujours que Dieu est souverainement pur, souverainement parfait. Alors l'idée que ça, de souverainement, c'est que c'est au-delà de tout. C'est Dieu qui définit le niveau maximum de la pureté, de la perfection. Donc voilà, la sainteté de Dieu, c'est le fait qu'il soit au maximum de ce qui est possible d'être pur, d'être parfait. Donc dans ces deux définitions, on retrouve la notion de pureté, la notion d'exemplarité, la notion de faire le bien, etc. Mais à deux échelles différentes. Il y a Dieu qui définit la norme, qui définit le niveau maximal, et il y a les hommes qui s'efforcent, et certains hommes ont effectivement une conduite exemplaire à ce niveau-là. Mais quand même, aussi pieux et aussi exemplaire qu'ait pu être, alors Sylvestre c'était un pape, Valentin c'était un évêque, qui ont donné leur nom aux fêtes bien connues du calendrier, mais on ne peut quand même pas les comparer à Dieu. Et on va voir ce que nous dit la Bible à ce sujet sur la sainteté de Dieu, et on va prendre un passage dans Ésaïe 6, le passage dont est issue la citation « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Donc c'est Ésaïe 6, on va lire les versets 1 à 7. Donc c'est une histoire qui se passe dans l'Israël antique, on va dire, après, on va dire moins 800, très approximativement, donc il y a à peu près 3000 ans. Donc je lis, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient autour de lui, Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi !» car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à sa main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pinceaux. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Et donc dans ce passage d'Ésaïe, Ésaïe a une vision vraiment majestueuse, grandiose de Dieu. Il commence par voir Dieu sur un trône très élevé. J'aime bien l'expression « les pans de sa robe remplissaient le temple ». C'est comme si juste le bas de la robe de Dieu était déjà beaucoup plus grand que le temple. Et finalement, Dieu il ne peut pas tenir dans le temple, même si le temple de Jérusalem était quand même quelque chose de très grand. Hein, c'est 30 mètres par 30 mètres, c'est imposant. Mais voilà, Dieu est infiniment au-delà de ça. On voit aussi, là, c'est un spectacle un petit peu son et lumière, on voit vraiment la voix des séraphins donc, qui dit cette phrase « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et au son de cette voix, voilà, on voit les portes du temple qui tremblent et la maison qui se remplit de fumée. La maison, c'est le temple ici. Voilà, la fumée qu'on retrouve à plusieurs autres endroits qui est un symbole de la présence de Dieu. Par exemple, quand Moïse va au sommet du mont Sinaï pour chercher les tables de la loi, on a aussi une importante fumée qui est au sommet de la montagne, et c'est là que Dieu est et vient à la rencontre de Moïse. Donc la maison se remplit de fumée, le temple est plein de la gloire de Dieu, et les séraphins disent même « la terre est remplie de sa gloire ». Ce n'est pas seulement le temple qui est trop petit pour Dieu, c'est la terre qui est trop petite pour Dieu. Donc voilà la vision de Dieu qu'a Ésaïe, une vision grandiose, impressionnante. Et autour de Dieu, on a ces séraphins, créatures étranges, qui disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. La terre est pleine de sa gloire. » Dans le mot hébreu qu'on emploie pour « saint », il y a la notion de quelque chose qui est au-dessus de l'ordinaire, qui est au-dessus du profane. C'est, voilà, pour rajouter à l'idée que Dieu est élevé au-dessus des hommes, Dieu est élevé au-dessus de la terre. Et donc voilà, la sainteté de Dieu, c'est sa perfection, sa pureté à un niveau maximum. Et on associe ici, Ésaïe associe la sainteté à la grandeur, la puissance, la toute puissance de Dieu. Et on voit dans la suite du texte que la sainteté de Dieu, cette vision va vraiment bouleverser Ésaïe. Alors, lisons le verset 5, il dit « Malheur à moi, je suis perdu. » Car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et Ésaïe se pose vraiment la question à ce moment de comment je peux être là, comment je peux être en relation avec ce Dieu tout-puissant. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment être en relation avec un Dieu saint. Le point de départ, c'est que selon Ésaïe, ici, la situation commence de façon très compliquée. Il est vraiment terrorisé, il a compris qu'il ne devrait pas être là, enfin, que c'est difficile pour lui de se tenir devant Dieu. Et si on lit sa réponse, si on lit ce qu'il dit, il met en opposition deux choses. La première, c'est sa condition. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et de l'autre côté, on a le fait de voir Dieu. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et voilà, c'est l'impureté d'Ésaïe, c'est son péché, sa nature humaine, qui est la raison de sa terreur, il comprend qu'il ne peut pas se tenir devant Dieu dans telles conditions. Alors, Ésaïe est un prophète juif, et comme tous les juifs de l'époque, et même les juifs de maintenant, comme tous les juifs, il connaît la loi juive, la Torah, qu'on a dans les 5 premiers livres de notre Bible. Et dans ces livres, en particulier dans le livre de Lévitique, Dieu va expliquer avec tout un nombre de règles comment le peuple doit vivre, comment le peuple doit se comporter pour pouvoir vivre en sa présence et pour pouvoir presque survivre, j'ai envie de dire, en sa présence. Et le fil rouge de ce livre de Lévitique, c'est le chapitre 19, verset 1, où Dieu résume en fait plus ou moins ce livre en disant « Vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Vous serez saints car je suis saint. » Donc c'est ça la condition, toute simple, entre guillemets, énoncée de façon très courte, la condition pour se tenir dans la présence de Dieu. C'est d'être parfait comme lui est parfait, d'être pur comme lui est pur. Et Ésaïe a peur parce qu'il se rend bien compte qu'il n'est pas comme ça. Il se rend compte de l'impureté de ses lèvres, de l'impureté de son cœur, et ça le terrorise. On voit à plusieurs moments dans la Bible que c'est vraiment difficile pour le peuple juif de rentrer en relation avec Dieu. Par exemple, quand Moïse, une nouvelle fois, va sur la montagne pour chercher les tables de la loi, il y a une limite qui est tracée tout autour de la montagne et aucun homme, aucun animal n'a le droit de franchir cette limite sous peine de mort. Toutes les personnes qui s'approcheront de Dieu sans y être invitées devront mourir. Et on a aussi des exemples un peu plus tragiques où des personnes n'ont pas respecté les règles que Dieu a posées. Il y en a une en particulier que je peux donner dans 2 Samuel 6. Alors, c'est une histoire où c'est au moment du début du royaume d'Israël. Pendant tout le règne du roi Saül, le premier roi, l'arche de l'Alliance qui avait été prise par les Philistins, les ennemis à côté, n'était pas à Jérusalem, elle était dans une propriété d'un homme le long de la frontière avec les Philistins. Et le roi David, donc le successeur du roi Saül, au moment où il arrive au pouvoir, quelques temps après, il décide, bon, ben, maintenant j'ai pris Jérusalem, je vais ramener l'Arche de l'Alliance pour la mettre à Jérusalem, qu'elle soit au milieu du peuple. Et donc il demande à l'homme qui a l'Arche dans sa propriété, cet homme offre un char avec des bœufs, et il y a ses deux fils qui accompagnent le chariot, et donc ils se mettent en route pour Jérusalem. Et à un moment, on ne sait pas pourquoi, s'il y a une ornière dans le sol, ou quoi que ce soit, le chariot penche, l'Arche fait mine de tomber, et la personne qui est à côté de l'arche met la main pour la retenir et la remettre sur le chariot. Et à ce moment-là, on voit que dans le texte, Dieu se met en colère et tue cet homme à cause de sa faute. Donc cet homme pensait bien faire, il voulait empêcher l'arche de tomber par terre. Mais aucun homme ne peut toucher l'arche de l'Alliance. C'est Dieu qui a défini ça comme ça. L'arche est le symbole de sa présence aussi au milieu du peuple. Et on ne peut pas toucher l'arche comme ça. Alors c'est un exemple tragique d'une certaine façon, puisque cet homme n'a pas volontairement fait mal, il a peut-être juste... Il pensait bien faire, je pense. Mais quand même, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la présence de Dieu. Voilà, ces exemples montrent que Ésaïe sait bien que être en relation avec Dieu, c'est compliqué. On ne peut pas s'approcher de lui comme on veut. Il faut être pur soi-même, et pour un homme, c'est impossible. Vous pourrez toujours me dire que, okay, l'Arche de l'Alliance, c'est l'Ancien Testament, maintenant on ne sait plus où elle est. Peut-être que Indiana Jones l'a retrouvée, mais à part ça, on ne sait pas où elle est. Vous avez raison, c'est une partie de l'histoire de l'Ancien Testament, mais Dieu n'a pas changé. Dieu était le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera le même demain. Sa sainteté est la même, il est aussi saint qu'il l'était à l'époque de Moïse, et il est aussi pur qu'il l'était à l'époque de Moïse. Il a autant en horreur le péché maintenant qu'il l'avait à l'époque de Moïse, de David, et ses exigences n'ont pas changé. Et peut-être que c'est choquant de penser à la façon dont Dieu a traité cet homme qui a touché l'Arche de l'Alliance pour la remettre sur le chariot. Ça peut être choquant la façon dont Dieu se sépare de son peuple en mettant cette ligne autour de la montagne du Sinaï. Mais je vous propose une petite illustration pour réfléchir à cette idée. Alors, imaginons qu'un homme veuille organiser une fête chez lui. Alors, il va, c'est une histoire imaginaire, il nettoie sa maison complètement. Il fait en sorte que ça soit vraiment propre, vraiment nickel, comme vous n'avez jamais réussi à nettoyer votre maison. Le sol brille, les murs sont nettoyés, on a passé la poussière partout, il n'y a pas une seule tache. Et ça, cet homme, il fait en sorte que sa maison soit propre, vraiment parfaite. Et du coup, il se dit, si, enfin, il a invité des gens pour sa fête, il aimerait que chacun puisse venir, mais il se dit, voilà, si quelqu'un arrive et qu'il est tout sale, je ne vais pas lui dire de rentrer dans ma maison, il va tout salir. Bon, voilà, si quelqu'un, au moment où quelqu'un arrive, il lui dit gentiment, ben, est-ce que tu peux retourner chez toi, te changer et puis revenir quand tu seras propre. Et quand tu seras propre, tu pourras rentrer et participer à la fête. Alors, c'est un homme peut-être un petit peu maniaque, je vous l'accorde, mais bon, ça se comprend. Si je reçois quelqu'un à la maison et que le ménage est fait, je vais dire à cette personne, est-ce que tu peux laisser tes chaussures à l'entrée? Si il y a un peu de terre sur son pantalon, je vais lui dire, attention, quand tu t'assois sur le canapé, de ne pas en mettre partout, c'est un minimum de décence et de correction de faire attention à l'état de propreté de la maison dans laquelle on va. Donc, bon, là, on a juste un peu le niveau maximum de la maniaquerie, je ne sais pas si ça existe, mais de la... Voilà, il a envie que ça soit propre tout le temps. Et dès que quelqu'un est complètement sale, ou même juste un petit peu sale, il lui dit, écoute, est-ce que tu peux aller chez toi, te changer et revenir quand tu seras propre, tu pourras rentrer. Et d'une façon, Dieu, il est un petit peu comme cet homme. Il est tellement saint, il est tellement pur, qu'il ne peut pas accepter que quelqu'un d'imparfait vienne dans sa présence. Il ne peut pas laisser les hommes s'approcher de lui, s'ils ne sont pas purs comme lui. Il ne tolère pas le péché, et il ne peut pas. Et donc on a cette situation assez compliquée dont Ésaïe se rend compte et qui terrorise Ésaïe, mais la suite du passage va nous indiquer la solution. On va relire les versets 6 et 7 du chapitre 6 d'Ésaïe. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Donc là, c'est ce qui est beau, c'est que c'est Dieu lui-même, par l'intermédiaire de ce séraphin, cette créature céleste, qui opère la purification de l'homme. C'est Dieu qui va faire en sorte qu'Ésaïe remplisse les critères qui lui permettent de se tenir dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui vient vers l'homme et qui lui enlève son péché. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et donc si on reprend notre petite illustration de cet homme qui accueille, qui fait une fête chez lui avec sa maison bien propre, à chaque fois que quelqu'un vient et qu'il voit que cette personne n'est pas propre, il lui dit « Écoute, va te changer et reviens plus tard, quand tu seras propre, tu pourras rentrer. » Et au bout d'un moment, il s'aperçoit que personne n'est là. Donc il est bien embêté. Et vraiment, il peut pas. Il aimerait bien que les gens viennent pour participer à cette fête, quand même. Il a organisé ça pour eux. Mais voilà, il n'arrive pas. Quand les gens sont sales, il ne peut pas les faire rentrer, ce n'est pas possible. Alors il se dit, bon, je ne peux pas les faire rentrer sales, mais je vais aller acheter un paquet d'habits propres et je vais les mettre à l'entrée. Comme ça, quand il sonne, s'il est sale, je peux lui dire, ok, si tu veux, prends un habit propre, change-toi avec des chaussons propres et après tu pourras rentrer. Et donc cet homme décide de payer lui-même pour que ses invités puissent rentrer chez lui avec des habits propres. Et les invités pourront ainsi être avec cet hôte dans sa maison propre et profiter de la fête. Voilà, Dieu a offert son Fils, Jésus-Christ, pour payer le prix de ses nouveaux habits pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Son amour pour les hommes est tel qu'il a accepté de faire ce sacrifice pour que nous soyons purs, pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Pour ceux qui le veulent, pour que ceux qui l'acceptent puissent l'appeler notre Père. Pour que nous ayons la certitude de la vie éternelle avec lui. Pour qu'on puisse profiter dès maintenant des nouveaux habits, de cette nouvelle vie qu'il nous donne. Alors nous avons vu que notre Dieu est saint. C'est quelque chose qui le caractérise. On peut toujours garder en tête cette vision d'Ésaïe, d'un Dieu grandiose, bien plus grand que le temple, bien plus grand que la terre, et un Dieu qui ne peut pas tolérer le péché. Mais dans cette situation de crise, C'est Dieu qui prend les devants pour rétablir la relation entre Dieu et l'homme, entre nous et lui, pour que nous puissions être déclarés saints à notre tour. Mais pour autant, le péché n'a pas disparu de nos vies, de la mienne en tout cas. Et les nouveaux habits qu'on a reçus, si nous les avons reçus, il nous arrive encore de les salir. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment faire, comment continuer à vivre sans cesse en communion avec Dieu, malgré le péché qui n'est pas encore complètement éliminé de nos vies. Alors, la solution que Dieu propose ne s'arrête pas au sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, mais il est aussi ressuscité. Et il est maintenant auprès de Dieu. J'aimerais lire un verset dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Donc Jean écrit à des chrétiens. Je vais attendre que ça s'affiche. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Merci. Chapitre 2, verset 1. Voilà. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Alors, un avocat, c'est quelqu'un qui prend la défense des gens pour qui il est mandaté. Et donc, quand il est dit que Jésus-Christ est un avocat pour nous, c'est-à-dire que Jésus-Christ prend notre défense devant Dieu, il est là. Et il rappelle à Dieu, je suis mort pour que tu leur donnes des nouveaux habits. J'ai payé pour eux. Et si nous avons accepté le Seigneur, nous avons cette étiquette avec marqué saint dessus, ou cette étiquette que Jésus, Dieu nous a donnée, et Dieu nous voit de cette façon. Dieu nous voit comme saints, et Dieu nous autorise à rentrer en relation avec lui. Mais il attend aussi, d'un autre côté, que nous nous comportions de façon appropriée avec ce nouveau statut. Je reviens une dernière fois sur l'histoire de notre homme avec sa fête, dans sa maison toute propre. Et voilà, cet homme qui a mis à l'entrée des habits propres pour que les invités puissent entrer dans sa fête, se changer et entrer. Bon, il espère que les invités vont rester propres. Parce que, voilà, si les invités se salissent, ils risquent de salir la maison, ça va être compliqué. Et pour que les invités puissent rester à la fête jusqu'au bout, il se dit, ok, je vais faire encore mieux, je ne vais pas seulement leur donner un habit quand ils rentrent, mais à chaque fois qu'ils se salissent, quand ils se rendent compte qu'ils se sont salis, ils peuvent venir me voir et je leur donnerai à nouveau un nouvel habit et je laverai l'ancien. Comme ça, ils pourront en permanence avoir cet habit propre et être sereinement dans ma maison. Donc cet homme va recommencer, autant que nécessaire, à fournir des habits propres à ses invités. Et imaginons un instant que nous soyons invités de cet homme, qu'il nous ait offert une nouvelle tenue à l'entrée de sa maison pour que nous puissions rentrer, et qu'il soit prêt à nous en offrir une à chaque fois que, par mégarde, nous salissions notre habit. Voilà, si on était chez cet homme, est-ce qu'on aurait envie, ou même est-ce qu'on oserait faire exprès de salir cet habit ? Sachant déjà le nombre qu'il nous en a donné, ça serait déplacé d'une certaine façon. Ça serait un manque de respect vis-à-vis de son hospitalité. Et donc c'est ça que Dieu attend de nous. Pour finir, j'aimerais lire quelques versets dans 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Donc c'est Paul qui écrit au chrétien de l'église de Thessalonique, pardon, en Grèce. Et donc il dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps avec sainteté et honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use de son frère, n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance, comme nous vous l'avons déjà attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, Paul, au début de ce passage, dit aux Thessaloniciens, voilà, vous savez ce qu'il faut faire, vous avez appris comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et donc, je vous en prie, faites ça, persévérez là-dedans. Continuez à progresser sans cesse, à vous questionner sans cesse, à vous remettre en question. Cherchez à vous améliorer devant Dieu. Il donne ensuite plusieurs consignes générales, s'abstenir de la débauche, maîtriser son corps avec sainteté et honnêteté. On retrouve la sainteté que Dieu attend de nous ici. Ensuite, agir avec amour, avec justice vis-à-vis des autres chrétiens. Et j'ajoute ici que ça ne s'arrête pas aux autres chrétiens. Agissons avec amour et justice envers chacun. Et voilà, c'est ça que Dieu attend de nous. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est notre sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et c'est ainsi que nous pouvons montrer que nous pouvons montrer notre attachement à lui. C'est ainsi que nous pouvons montrer à quel point nous reconnaissons la valeur du cadeau qu'il nous a fait. Dans l'histoire de notre homme et de ses invités, les invités, au début, dans les premiers temps, étaient dehors et ne pouvaient pas rentrer. Et ils se trouvent en possibilité de rentrer, faire la fête avec cet homme, et en plus d'être sans cesse, d'avoir sans cesse des nouveaux habits. Réfléchissons un moment. Imaginons que Dieu soit à côté de nous, qu'il nous accompagne dans tous les détails de notre vie, qu'il puisse connaître nos pensées, nos actions. Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que Dieu n'approuverait pas ? Je laisse réfléchissons chacun pour nous. Est-ce qu'il y aurait de la colère, de l'amertume, de la jalousie, de la paresse, de la médisance ? Des mauvaises pensées. Nous pouvons demander à Dieu de nous montrer ces choses, de nous montrer quelles sont les choses qui ne lui plaisent pas, quelles sont les choses qu'il aimerait que l'on change. Et on peut aussi demander à Dieu de nous donner la force, de nous donner le courage et la persévérance pour changer ces choses avec son esprit. En conclusion, ce matin, on a pu voir, j'espère, que la sainteté de Dieu, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment quelque chose qui a marqué Ésaïe profondément. Je n'ai pas eu personnellement de vision de ce genre, donc je ne peux que m'imaginer à travers ce texte ce qu'est la sainteté de Dieu. Mais face à cette sainteté, cette perfection, le péché n'est juste pas compatible et Dieu ne peut pas tolérer ce péché. Ce péché devrait entraîner notre mort. Mais Dieu nous accueille avec amour. C'est lui qui nous donne la possibilité de renouer une relation avec lui. Alors soyons reconnaissants pour ce don merveilleux. En retour, honorons Dieu par notre vie. C'est ainsi que nous pouvons le remercier pour ce cadeau qu'il nous a fait. Je vais terminer par dernier verset de Philippiens 4:8 qui dit « Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. »